pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur.
Tant comme quedera un alé de vida, tant comme quedera una gota de sang, jo te cantaré dolça terra ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'un amant. Tant com me quedarà un alé de vida, tant com me quedarà un filaret de veu, jo te cantaré dolça pàtria ferida, jo te cantaré malaguanyat país meu. M'és igual si ja mil poetes, m'és igual si ja mil pintors han contat tes amoretes, han glorificat tos colors. Amorosos de colliure, amb adalits del canigú, alabant el ple de viure sota el cel blau de Rosselló, banyant l'ufanús al vera dins l'ona calma d'Argelès i fent-se l'aspre corbera guardiana del barcarès. Tant com me quedarà un alé de vida, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré dolça terra ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'un amant. Tant com me quedarà un alé de vida, tant com me quedarà un filaret de veu, jo te cantaré dolça pàtria ferida, jo te cantaré malaguanyat país meu. M'és igual si ja mil poetes, m'és igual si ja mil pintors han contat tes amoretes, han glorificat tos colors. M'és igual si ja mil teles s'han emprat el castellet i si les teves esteles ja han ballat dins d'un sonet. Si mil cops la tramuntana ha fet sarau tot d'una nit, si s'ha pintat la sardana com un ball d'amor infinit. Tant com me quedarà un alé de vida, tant com me quedarà una gota de sang, jo te cantaré dolça terra ferida, jo te cantaré amb els sanglots d'un amant. Tant com me quedarà un alé de vida, tant com me quedarà un filaret de veu, jo te cantaré dolça pàtria ferida, jo te cantaré malaguanyat país meu. M'és igual si la ginesta ja ha airejat mil cançons, si els esclats de nostra festa il·luminen els horitzons, si se sap que la bandera que jo tinc cara del cor sol última i primera va ser feta de sang i d'or. M'és igual si ja mil poetes, m'és igual si ja mil pintors han contat tes amoretes, han glorificat tots colors. Tant com me quedarà un alé de vida, tant com me quedarà un filaret de veu, jo te cantaré dolça pàtria ferida, jo te cantaré malaguanyat país meu. Tant com me quedarà comma quedará un filaret de
Bonjour à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hélène Legré, que j'ai eu le plaisir de recevoir par le passé, il y a déjà, je crois, 8 ans. Elle nous revient avec un de ses derniers romans, Journaliste, les chroniqueuses radio. Bonjour Hélène.
Bonjour Gisèle, bonjour à tous, et effectivement ravie de vous retrouver après tout ce temps.
C'est vrai. Vous nous avez choisi une musique tout à fait de chez vous, avec Jordi Barr, pour faire l'entrée de cet entretien. Qu'est-ce qui a guidé votre choix ?
L'ami Jordi, qui n'est plus de ce monde maintenant, effectivement c'est le chantre du pays catalan, et tant comme Quedara, ce qu'il dit c'est qu'il défendrait le pays catalan jusqu'à son dernier souffle, tant qu'il aura un petit filet de voix. Et il se trouve qu'il est dans le livre, dans l'alchimiste de San Vicente, dont nous allons parler aujourd'hui, puisque à l'époque dont je parle, donc dans ce livre, dans cet atelier de céramique, c'était en fait un pôle culturel, et il y a eu la création d'une espèce de chorale catalane, il s'appelait le Fanal de San Vicente, et il était le soliste, jeune évidemment à l'époque, le soliste du Fanal de San Vicente, dont forcément il avait sa place aujourd'hui dans l'émission.
Tout à fait, et c'est toujours un plaisir d'écouter Jordi Barr. Vous avez reçu le prix Méditerranée-Roussillon en 2012 pour un autre roman, Les héros perdus de Gabriel. Comment avez-vous reçu cette distinction ?
Effectivement, c'était j'écris à chaque fois, chaque année, hein, j'en fais un par an, un roman pour faire connaître le pays catalan, des choses qui s'y sont passées. Il s'est passé plein de choses. Surtout que la frontière a changé de place avec le traité des Pyrénées, donc c'est une histoire, on est à la frontière, c'est extrêmement riche, qui est très très peu connue. Donc des sujets, c'est pas ce qui me manque. Et là, en l'occurrence, en fait, j'ai souvent eu des prix, effectivement, pour d'autres aussi. Celui-ci, c'est pour L'héros perdu de Gabriel, qui relate le destin tragique des joueurs de l'ASP, c'est l'ancêtre de l'USAP, hein, de l'équipe de rugby de Perpignan. Mmh. Et ces joueurs-là ont été champions de France pour la première fois de leur histoire, le 3 mai 1914. C'est un hasard, ça aurait pu être en 12, ça aurait pu être en 13, mais c'est en 14. Ce qui fait que les champions de France, à partir mobilisés donc dans les tranchées, ce sont les joueurs de Perpignan. Et la moitié de l'équipe, dont la moitié des champions de France, va périr dans les tranchées, dont un jeune homme qui n'a jamais eu 20 ans, puisqu'il est mort juste avant son 20e anniversaire, et qui s'appelait Aimé Giral. C'est le nom du stade de Perpignan. Et je pensais qu'il était temps de rendre hommage à ces jeunes joueurs de rugby, ces jeunes sportifs, donc partout, parce que dans toute la France, ceux qui sont partis de se faire tuer à la guerre. C'est pour ça que j'ai reçu ce prix Méditerranée-Roussillon, et j'en suis effectivement très fière.
Ah ben je vous comprends. Votre métier vous aide bien sûr pour l'écriture. D'où vient ce besoin d'écrire justement ?
C'est mon mode d'expression naturel depuis gamine. Je faisais plein de choses, hein, mais pour moi, pour m'exprimer, eh bien à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur, je suis un dinosaure, c'était un stylo et un cahier. J'écrivais des poésies, j'écrivais des petites histoires mes sœurs lisaient, j'écrivais des pièces de théâtre, j'embrigadais tout le quartier, tous les gamins du quartier pour leur faire jouer une pièce de théâtre, enfin bon. Et ensuite, tout naturellement, je suis devenue journaliste parce que c'est aussi donc de l'écriture. Journaliste radio, c'est une écriture particulière, un peu frustrante quand on aime écrire, parce que c'est vrai que les sujets, verbes, compléments, c'est de la communication, il faut que le message, il n'y ait pas de déperdition au passage, donc c'est une écriture particulière. Je savais qu'un jour j'écrirais sur la longueur, en me faisant plaisir justement avec les mots, et comme souvent, parce que j'ai des camarades qui sont dans le même cas, c'est un accident de la vie qui fait qu'il y a un moment, on a besoin, il y a des choses qu'il faut sortir. Moi en l'occurrence, je me suis retrouvée seule avec mon fils quand il avait 2 mois et demi, son père n'a pas assumé. Et donc c'est très violent, et quand on se retrouve seul avec un bébé comme ça, puis on a le choix, si je puis dire, entre la dépression et trouver un moyen de s'évader et de trouver un sens à tout ça, et moi je l'ai fait avec le stylo, avec cahier. J'ai eu la chance que mon premier manuscrit, qui n'était pas au départ destiné à être édité, je l'ai écrit pour moi, pour me sauver, on va dire, eh bien, il a été édité. C'était La Damoiselle d'Aguilar, et l'aventure a commencé comme ça.
Est-ce que vous écrivez plutôt la nuit, plutôt dans la journée, le matin ? Est-ce que vous prenez des notes quand vous allez quelque part pour avoir justement des idées ou quelque chose que vous avez entendu ?
C'est une façon de travailler carrément, parce qu'en fait, tout se justifie. Oui, des notes, oui, j'en prends tout le temps. Et puis, comme j'ai un gros travail de documentation sur tous mes livres, je travaille aussi beaucoup aux archives, je vais rencontrer des gens que j'interview, etc. Donc, forcément, j'ai des notes de partout. Mmh. En même temps, oui, j'écris le soir jusqu'à tard. Mais ça, il y a une raison à ça, c'est pas juste une manie. C'est parce qu'en fait, quand le soir, le monde s'endort, le monde réel, on va dire, moi, je peux mettre mon monde virtuel à sa place. Il n'y a plus de coup de téléphone, il n'y a plus de voiture qui passe, c'est le calme, et là, je suis ailleurs. Très bien. Et mes camarades, souvent, on travaille soit très tôt le matin, moi, je suis du très tard le soir.
D'accord. Nous allons ouvrir votre livre, L'alchimiste de Saint-Vincent, où Quand la beauté sauve et illumine, c'est paru chez Calmann Lévy, collection Territoire en 2022, les années 1950, l'après-guerre. Vous aimez l'histoire,
hein ? Ah, je suis passionnée de ça. J'ai une formation d'historienne, hein. J'ai fait mes études d'histoire. D'ailleurs, pour moi, l'histoire et l'actualité, puisque je suis journaliste, c'est la même chose. Oui. L'actualité d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. Hein. C'est savoir justement tout ce qui s'est passé, comprendre les gens, comprendre leurs réactions, se mettre à leur place. Ça me fascine de voir justement. C'est ça le plus difficile au départ, c'est de faire abstraction de ce qu'on sait d'après. Oui. Quand oui. On se plonge dans le passé. Mais maintenant, je suis rodée à ça, donc j'y arrive bien. Et me remettre vraiment dans l'état d'esprit qu'ils avaient, avec ce qu'ils savaient, sans boule de cristal, qui anticipe sur l'avenir. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe de nos jours, ce qui se passe dans nos vies, si on ne sait pas comment on en est arrivé là.
C'est vrai. Alors, on va essayer de dire, mais sans trop dire, parce voilà. Que ça va être un petit peu difficile.
C'est toujours compliqué.
Le contraste que vous avez mis entre les personnages, entre les choses, est-ce que c'était prémédité ? Vous avez fait votre plan ? Comment vous vous y êtes prise ?
En fait, si vous voulez, c'était les 80 ans de cet atelier de céramique qui a été internationalement connu, surtout dans ces années 50, 60, 70, avec Jean Lursa, avec Picasso, avec Dali, etc., etc. J'avais envie depuis longtemps d'écrire dessus, donc je m'étais dit, allez, Saint-Vincent cette année. Et pour moi, la céramique, c'est de l'alchimie, parce qu'on met les quatre éléments fondamentaux en présence, de la terre avec de l'eau, et on fait cuire donc dans le four avec du feu, qui est alimenté par l'air. Et par ailleurs, Firmin Bobby, le fondateur de cet atelier Saint-Vincent, pour moi, c'était également un alchimiste, parce qu'il avait mis en présence les bâtiments, les installations techniques, les techniciens, et donc les grands artistes qu'il avait invités à venir au fur et à mesure. Et le tout mis en présence a permis de créer des merveilles. D'accord. Et puis, vous le savez, l'alchimie, depuis au Moyen-Âge, le rêve de l'alchimie, c'était transformer le plomb en or. Et donc, pour mon intrigue romanesque, parce que la première partie de ce que je viens de vous dire, c'est effectivement ce que je reconstitue à l'identique, mais il me fallait une intrigue romanesque. Et j'ai choisi un plomb, c'est-à-dire André Escande, professeur de maths à la retraite, qui est un psychorigide, totalement ennemi de toute fantaisie, hyper rationnel. Si le monde, la vie de tous les jours pouvait se résumer à une équation mathématique, il serait le plus heureux des hommes, et qui a le malheur, pour lui en tout cas, d'être le voisin immédiat de Saint-Vincent, donc de tout ce qu'il déteste. Donc c'est le plomb.
Alors justement, nous allons parler
qu'on va transformer en or, bien sûr.
Oui, on va parler de André Escande. Vous l'avez bien réfléchi, ce personnage, pour le faire aussi fermé et hermétique à tout, mais vraiment à tout.
C'est ce que je disais, le psychorigide totalement, hyper rationnel, tout ce qui le dérange de sa droite ligne, si je peux dire, c'est à bannir. Et il s'est fait son monde comme ça. Alors, bien sûr, il y a des raisons pour ça, mais on les découvrira après.
Tout à fait.
Y compris dans son mariage, puisqu'il a épousé une jeune fille, et carrément, il lui a demandé de changer de prénom.
Voilà,
parce
c'est
que
ça.
Le prénom était trop fantaisiste.
Ça m'a vraiment. Oui, ça m'a surprise parce que vous avez connu des cas comme ça ou c'est pour le fun de la lecture ?
Alors, dans ces générations-là, j'ai connu des gens psychorigides comme ça, effectivement. De là à faire changer de prénom, enfin, quand je dis il a fait changer de prénom, lui, il l'appelle autrement.
Oui.
Et dans les familles, combien de fois on vous dit, on vous parle de quelqu'un et vous vous rendez compte que ce n'est pas son prénom qui est sur l'état civil.
Oui,
on appelle la personne par un autre prénom, son deuxième, son troisième. Des fois, ça n'a même rien à voir.
Oui.
Ma tante, qui s'appelait Eliane, l'état civil, elle s'appelait Anne-Marie. Bon, et ainsi de suite. Voilà, pour des raisons diverses et variées, mais ça arrivait. C'est pour ça qu'on disait nom d'usage, prénom d'usage. Et je me suis dit qu'un homme aussi rigoriste que ça ne pouvait pas se satisfaire d'une femme, une jeune femme qui s'appelait Sibylle, qui lui rappelait trop la pitié de Delphes, là, toutes les prophétesses antiques échevelées au-dessus de leur vapeur de soufre. Et il a décidé qu'elle s'appellerait Suzanne, parce que ça, c'était un nom bien écrit, bien prosaïque.
Suzanne, pour la modeler, pour lui faire mener cette vie dans l'ombre d'André, est-ce que ça a été difficile ou est-ce que ça a été tout simplement l'eau qui coule de la source? J'arrive pas trop à cerner pas le personnage. Le personnage, je le comprends, mais votre façon de l'avoir créé.
J'écris souvent sur des femmes libres qui se battent ouvertement.
Oui.
Moi, j'avais envie d'abord d'avoir des personnages plus âgés. Bon, il faut le dire, c'est un couple il est à la retraite, et ça se passe quand ils ont entre 60 et 70 ans. Déjà, ça a changé, c'est vrai que souvent les héros, les héroïnes, ont entre 20, 30, 40 ans maximum, très actifs, etc. C'est un défi que je me lançais, je me suis dit, fais donc des personnages déjà plus âgés, mais plus âgés dans une autre période, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, à 60 ans, on fait du trekking dans l'Himalaya, on est d'accord. Oui. Pas à l'époque, c'était très différent. Et ensuite, ces femmes-là, moi j'en ai croisé quand j'étais gamine, de ces femmes qui vivaient dans l'ombre de leur mari, mais qui malgré tout arrivaient, et que j'admirais pour ça finalement, parce que c'est, je dirais presque pour moi qui suis une petite fille de 1968, j'avais 7 ans en 68, et j'ai grandi libre avec des enseignants qui nous disaient, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, chef d'orchestre, ingénieur, chirurgien, astronaute, ces femmes-là, toutes ces générations, ont grandi avec énormément de pression sociale qui leur interdisait tout ça. Et elles ont quand même réussi à vivre et à mener leur barque finalement malgré ça.
D'accord.
Et alors elle est aux antipodes de moi qui ai toujours été, l'épée à la main pour avancer. Et c'est ça aussi le défi quand on écrit, c'est de se mettre dans la peau de personnages totalement différents de soi-même. C'est vraiment ce que les comédiens appellent un rôle de composition.
Oui.
J'ai pris beaucoup de plaisir parce que finalement, au départ, elle avait un rôle moins important. Elle vivait dans l'ombre de son mari. Et puis, au fur et à mesure que j'écrivais, parce qu'il faut le savoir, les personnages prennent leur indépendance au bout d'un moment.
Oui.
Ils prennent leur autonomie, on peut pas leur faire faire ce qu'on veut entièrement. Et j'ai découvert que Suzanne, elle pouvait avoir son jardin secret. Elle pouvait continuer à avoir sa propre vie tout en, coulant dans le moule que son mari avait fait pour elle. Mais en fait, elle est pas si soumise que ça. Elle est soumise en apparence.
Voilà, c'est ça.
C'est très important.
Est-ce que ça a été difficile, justement, ou plutôt facile de situer votre histoire dans les 30 Glorieuses au moment justement de l'après-guerre? C'était le renouveau, c'était le redépart.
Pas vraiment, non, parce que, alors déjà, moi je suis née en 1961, donc je suis de la fin des baby-boomers, les années, j'avais fait des années précédentes, les années postérieures, donc c'était un créneau d'années que je n'avais pas encore fait. Et j'adore travailler sur la presse locale des époques concernées, parce qu'elle est très très instructive. Il y a les livres, bien sûr, je lis le livre des historiens aussi, bien évidemment. Mais là, il y a des analyses, il y a du recul. Dans la presse, on voit vraiment comment les gens vivaient au jour le jour, ce qui les faisait réagir. Et moi, ça me passionne de me plonger dans ces vieux journaux. Et puis, je me suis rendu compte que, par exemple, à l'intérieur, il y a l'inauguration du lycée Arago de Perpignan. J'ai été élève au lycée Arago, mais pour moi, c'était un vieux lycée.
Oui.
Et là, je l'ai découvert tout neuf. Et en fait, on revisite sa propre vie quand on plonge aux racines comme ça.
D'accord.
Et ça m'a permis donc de faire l'hiver 54 aussi, avec la neige, etc. Enfin, des choses aussi dont j'avais entendu parler par mes grands-parents. Mais là, cette fois-ci, c'est comme si je l'avais vécu moi-même.
D'accord. André et Suzanne ont un voisin, ce voisin donc qui fait marcher cette céramique, sans trop le dévoiler, parce que sinon on va dire toute l'histoire. Est-ce qu'il fallait qu'il soit complice de Suzanne ou est-ce qu'il est venu, devenu au fil de l'histoire? Parce que ça a une importance, ce lien étrange qu'ils ont entre eux.
En fait, c'est surtout Suzanne qui, étant enfermée dans la maison avec son André, n'est-ce pas, a à côté d'elle l'exemple même, derrière la haie de la clôture, de la liberté absolue, de la création artistique, etc. C'est elle qui va passer de l'autre côté. Et je n'ai fait réagir Firmin Bobby que comme il aurait réagi, parce qu'il était comme ça. Il aurait été quelqu'un qui chassait les gens, qui voulait rester comme ça dans sa thébaïde artistique, etc. J'aurais pas fait l'histoire comme ça, évidemment. Mm-hmm. Mais au contraire, c'était quelqu'un qui voulait que l'art et tout ce qu'il faisait à San Vicens, eh bien, la population se l'approprie. D'ailleurs, en 1946, après la guerre, il a créé une crèche en céramique. Hein, il a demandé à des artistes de la créer. Et toujours aujourd'hui, en décembre, la crèche, tous les Perpignanais vont voir la crèche de San Vicens. Donc on rentre dans ce masque qui a été transformé en atelier de céramique. Autant qu'il le pouvait, il accueillait tout le monde à chaque fois. Moi, gamine, je me souviens d'avoir effectivement été pour qu'on prenne les photos des mariages, par exemple. On allait dans le parc du masque de San Vicens parce que mm-hmm. c'était magnifique et qu'il ouvrait, la grille était ouverte à tout le monde. Et donc, c'était tout simplement dans sa personnalité à lui. D'accord. Et je ne fais réagir les personnages que comme ils auraient réagi dans la vraie vie.
D'accord. Suzanne aurait-elle pu supporter sa vie de frustrer, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même... elle vit dans une prison, même si elle n'est pas fermée. Sans cette complicité, justement, d'avec son voisin, cette prison dorée, elle avait besoin de s'en échapper, finalement.
Elle avait déjà trouvé des petits moyens de s'en échapper. Elle avait obtenu sa roseraie. C'est parce que son mari, lui, les fleurs, si on l'avait écouté, il aurait cimenté entièrement tout le jardin. Bon, enfin bref. Et elle a aussi sa pièce au premier étage où elle a mis tous ses bibelots, parce que c'est pareil, il veut pas un seul bibelot, ça prend la poussière. Oui. Elle écoute sa musique. Ses neveux lui ont offert un poste de radio, donc elle écoute. Elle s'est fait des petites portes de sortie, mais c'est vrai que la grande, c'est San Vicens à côté. Et quand elle arrive à passer de l'autre côté, elle ouvre en grand, quoi. Oui. Mais bien entendu, sans que son mari le sache.
Oui, en effet. Il me semble que Suzanne s'accroche à tout ce qui peut lui apporter ce don, pourquoi elle est faite, donner de l'amour, de l'attention autour d'elle. Est-ce que je me trompe ou pas?
Ah, pas du tout, c'est sa façon d'exister malgré tout, je dirais. Elle aime son André, hein, faut pas
oui,
croire.
Ah oui.
Elle a accepté ça, mais en même temps, on peut pas simplement par amour décider de mourir à soi-même, c'est pas possible. Mm. Donc elle s'est débrouillée pour exister sans qu'il le sache, de continuer à exister et à vivre. Donc je l'ai dit au départ de petite façon, et puis là, ça va lui ouvrir des grandes portes. Pour elle, c'est elle mène une double vie en fait, hein, on va dire ça comme
tout
ça.
À fait.
Sans qu'il y ait, comment dire, de dégâts pour personne. Hein. Mmh. À la maison, elle est telle que son mari le souhaite. Et quand elle va à San Vicens, elle est telle qu'elle aurait voulu être. Finalement, elle arrive à trouver un équilibre comme ça. Oui. Et je suis sûre que dans ces années-là, ces femmes qui se sont mariées entre les deux guerres, quoi, oui. ou même avant, il y en a beaucoup qui ont réussi à vivre comme ça, en ayant leur jardin secret.
Oui.
Et en continuant à vivre pour elles-mêmes, mais sans, entre guillemets, décevoir leur mari.
Oui. André ne supporte personne, hormis sa femme. Il ne supporte personne. C'est tout juste s'il peut parler à son collègue Desbarat. Est-il parvenu, André, si on peut en parler sans trop en dire
oui,
encore
enfin, c'est pas un parvenu, non, dans le sens où on l'emploie en général au point de vue
tout
financier,
oui.
Social. Lui, il se trouve qu'il vient d'une famille d'agriculteurs, qu'il a fait des études et qu'il est devenu professeur. Il n'y a même pas de mépris parce qu'au contraire, il respecte énormément les gens de la terre.
Oui, tout à
Mais
fait.
Mais il a l'impression d'être passé dans un autre monde.
Oui.
Que ça ne le concerne plus. Puis je vous l'ai dit, il est très cartésien. Donc, lui, quand il y a des étiquettes, il y a des étiquettes.
Oui.
Voilà, il y a des portes qui ferment, on ne revient pas en arrière. Il manque de. C'est le peu de dire qu'il manque de souplesse, on est d'accord.
Oui.
Et c'est quelqu'un qui. J'espère qu'au début, vous aimerez le détester parce que vous verrez qu'après. Moi, je l'aime beaucoup, André. Hein. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui se rend pas compte qu'il est enfermé dans lui-même, en fait.
Ah, mais tout à fait.
Il a même refusé, il voulait pas avoir d'enfant, il était prof. Déjà, il disait qu'il en voyait suffisamment, mais parce que c'était le chaos dans une maison. Donc, tout ce qui peut le déranger, en fait, il est proche de l'autisme, presque, hein, de ce point de vue-là.
Tout à fait.
De ce côté routinier, de ce côté, il lui faut ses repères et que personne ne les touche. Et il a fait au mieux, étant donné qu'à l'époque, c'était les hommes qui dirigeaient, mmh. Eh bien, il a imposé sa façon de voir aux autres, à sa femme d'abord, et à son entourage. Aujourd'hui, il ne pourrait pas le faire aussi facilement, il serait remis en question tout de suite.
Hein. Oui. Il a privé Suzanne d'enfants,
oui.
De monde autour d'elle, de ses voisins, des fleurs, des choses qui font le bonheur tout simple. Il accepte tout juste que Suzanne voit sa filleule, parce que c'est quasiment sa seule famille. Pour lui, à ses yeux, ne trouve grâce que les mathématiques, quelques livres...
comment ça vous est venu? Mais moi, je ne dis rien, je ne dévoile rien. Hein.
Encore une fois, c'est quelque chose qui m'intéressait, d'aller vers quelqu'un qui était à l'opposé de moi-même.
D'accord.
Parce que moi, je suis exactement l'inverse.
D'accord.
Voilà, moi, toutes les portes, toutes les fenêtres sont ouvertes. J'adore apprendre, j'adore rencontrer des gens, j'adore repousser mon horizon, j'adore élargir mon univers, découvrir des choses, sortir de ma zone de confort. Et lui, il est l'opposé. Et je trouvais ça fascinant, justement, de me dire comment on est dans la tête de quelqu'un qui est comme ça renfermé, qui ne se rend même pas compte de tout ce qu'il se prive.
Donc, vous avez fait un plan.
De toute façon, je sais où je vais quand je pars. Donc, un plan, non, un plan rigoureux, non. C'est-à-dire que je ne me dis pas au premier chapitre, il y aura ça, au deuxième, etc.
Non, mais
par contre, je pense beaucoup à mes personnages avant d'écrire.
Oui.
Et pendant des mois, pendant que je fais mes recherches, parce que j'en ai fait énormément, et j'ai même appris à faire de la céramique.
Oui.
Parce que j'ai besoin à chaque fois que j'écris d'avoir les gestes, d'avoir les sensations qu'on a à ce moment-là. Mm-hmm. Je suis très fière d'avoir, alors c'est une œuvre unique, hein, elle le restera, mais il n'empêche, j'ai fait de la céramique. Et pendant que je fais tout ça, en fait, mes personnages dans ma tête, ils évoluent, ils grandissent, ils prennent de la chair.
Oui.
Et au fur et à mesure, ce que je dis, au départ, on a une idée de base, et après, ils nous échappent un petit peu parce que c'est comme les vraies personnes, vous savez, on ne peut pas mettre les gens dans des cases, contrairement à ce que des fois certains voudraient. Et ils ont leur propre logique, ils ont leur propre blessure, ils ont leur propre logique interne. Et au fur et à mesure, mon André, il a pris, je vous ai dit, Suzanne, au départ, elle était la comparse, elle n'existait pas trop dans mon histoire, et puis elle a pris une importance que je n'avais pas imaginée. Moi, j'ai appris, parce que c'est mon 22e roman quand même, j'ai appris à me laisser guider par mes personnages, à lâcher prise. C'est pas forcément le plus facile quand on écrit.
Mais à
laisser faire les choses. Et effectivement, ils sont comme ça, très, très humains, très crédibles, avec toutes leurs contradictions, parce qu'il n'y a personne qui est blanc, personne qui est noir, et avec à la fois leurs contradictions, mais avec une logique interne qui explique tout ça.
Oui.
C'est ce qui s'est passé avec André, donc je l'ai un peu enfermé là-dedans, en me disant, mais comment on peut vivre comme ça?
Oui.
Comment on peut vivre dans un si petit espace mental, moral? Et on se rend compte aussi que il y a des raisons pour ça, des choses qu'il a eu besoin de se rassurer, il a eu besoin que son monde soit bien cadré, parce que pour reprendre pied à un moment donné. Mmh. Et en fait, bon, ça va se fissurer de partout, mais il aura attendu beaucoup, beaucoup de temps.
Oui, tout à fait. Puisque vous avez fait un personnage contraire à vous, vous avez dû mettre « j'aime ça », donc André ne l'aime pas.
Voilà. C'est un peu ça.
C'était
mais en
plutôt
fait,
ça ma question.
Je voulais dire, au fil des romans, au début, c'était très compliqué de se mettre dans la peau des personnages.
Oui.
Alors, celui qui vous ressemble le plus, évidemment que non, mais les autres, c'était toujours compliqué. Mais maintenant, je suis comme une comédienne, j'adore ça, j'adore aller aux inverses, c'est tellement jouissif. Honnêtement, les personnages positifs, qui ressemblent, etc., sont moins rigolos, enfin moins excitants à mettre en scène que ceux qui sont aux antipodes de vous-même. Je vous le dis vraiment, par expérience maintenant, et c'est vrai que j'aime bien en fait, j'aime bien le faire. Quand je dis aux antipodes de moi-même, je me rends compte, que et c'est le cas de tout le monde, on a des traits de caractère dominants, mais on a le reste, on l'a aussi en soi. Il y a des moments dans la vie, souvent, ils sont rares, mais où ils ressortent ces autres traits de caractère, cette envie de se replier sur soi par moment pour face à telle épreuve ou des choses comme ça. Et je suis obligée, moi, d'aller... Je suis ma propre matière première. C'est comme un frigo, vous savez, on ouvre le frigo, puis on va chercher au fond tous les ingrédients. Eh bien, on va chercher au fond de soi-même ce qu'on a quand même en soi.
Ouais.
Parce que parfois, oui, j'ai eu envie de me replier et d'être loin du monde parce que j'étais agressée de toutes parts, etc., etc.
Mm-hmm.
Eh bien, je suis allée chercher dans ces moments-là, qui chez moi sont très rares, évidemment, pour en faire un caractère dominant de mon personnage. Mais en fait, paradoxalement, il ne m'est pas si étranger que ça.
D'accord. Hélène, nous allons faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous nous avez choisi et pourquoi?
Les Innocents, c'est un groupe que sans doute beaucoup connaissent encore,
oui.
En tout cas d'une certaine tranche d'âge. Les Innos, comme on disait, parce qu'en fait la céramique, c'est d'abord l'explosion de la couleur. Quand on fait de la céramique, il faut savoir que quand on émaille le plat, le vase qu'on veut c'est donc mettre en céramique, eh bien les couleurs sont très pastels. Et c'est le feu, le four qui va révéler les couleurs, qui va faire exploser des couleurs très vives. J'ai choisi le titre « Color » des Innocents.
Color, le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe. De l'or, les murs écoulent dans singe, fraîche, blanche comme le linge, à jamais répand du phare sur les hommes, car le temps colore la foule, colore mes veines, chaque jour il me
chers auditeurs, et je suis en compagnie d'Hélène Legret qui nous fait découvrir son livre L'Alchimiste de Saint-Vincent ou Quand la beauté sauve et illumine. C'est paru chez Calmann Lévy dans la collection Territoire en 2022. Hélène, André fait un malaise et Suzanne arrive juste à temps pour arriver à le sauver. Est-ce que là c'est le virage du livre ou est-ce que le virage va se faire un petit peu plus tard, parce que j'en ai trouvé un autre un petit peu plus tard?
Il y en a plusieurs, vous avez raison, de virage, exactement. Parce que André Escand, pour sortir de sa bulle où il s'est enfermé tout seul, et, on dit bulle, mais c'est même pas le terme, parce que bulle, c'est léger, c'est transparent. Lui, c'est carrément un bunker en béton qui s'est fait. Voilà, pour en sortir, il faut plus qu'un seul virage. Et oui, c'est par étapes que ça va se faire, et puis ça me permet aussi ce malaise-là, de parce qu'elle va intervenir à temps, mais pas toute seule, elle va aller chercher de l'aide. Et c'est comme ça que c'est pour la première fois, la clôture entre leurs deux maisons va être donc cisaillée, hein, le grillage. Et sans qu'il le sache encore, lui, mais en tout cas, il va y avoir un premier passage avec son Vicence, donc les vases communicants, on va dire. C'est la première ouverture dans le bunker. Pour l'instant, il n'en sait rien.
Oui, tout à fait.
Parce que comme il a fait un malaise, il ne se souvient pas de qui est venu l'aider, etc. Et évidemment, comme d'habitude, elle a noyé le poisson en disant simplement, elle n'a pas menti, je suis allée demander de l'aide aux voisins. Elle n'a pas dit lesquels, évidemment.
Tout à fait.
Mais en même temps, c'était effectivement, et de façon concrète, et à la fois symbolique, la première brèche dans la clôture, dans le mur de Berlin dont il s'était entouré, en quelque sorte.
À la page 127, André est pris de doute et de jalousie presque. Est-ce que c'est là le déclic dans sa tête? Comment peut-il imaginer justement que cette brèche est en train de s'ouvrir, cette pointe qui lui arrive là au cœur, cette petite jalousie qui le fait un petit peu douter? Comment vous avez réussi cette alchimie, en fait, du rude?
Comme je vous l'ai dit, donc c'était à son insu qu'on a ouvert une première brèche.
Oui.
Mais cette brèche ouverte va avoir des répercussions. Et en fait, donc lui, il ignore qu'elle existe.
Oui.
Il ignore que sa femme va passer du temps de l'autre côté avec les artistes, etc.
Oui.
Tout ça, il l'ignore. Mais il n'empêche que même en ignorant les faits, alors que jusqu'ici, il considérait que sa femme était une sorte de prolongement de lui-même. Elle est dans son monde, il l'a mis dans son monde et elle ne doit pas en échapper. Et là, il se rend compte, mais à des choses infimes, il n'y a absolument aucun fait. Mais même l'éclat de ses yeux, tout d'un coup, il se met à regarder sa femme. Étrange, ça ne lui était jamais vraiment arrivé.
C'est vrai.
Et il se met à regarder sa femme, ce qui le déstabilise totalement, parce que jusqu'ici, son monde est centré sur lui-même, évidemment.
Oui.
Et des petites choses comme ça qui vont l'amener à décentrer son nombril, mais sans qu'il sache pourquoi. Et en fait, c'était un peu comme les cailloux du petit poussé, si vous voulez.
Oui.
Moi, il fallait que progressivement, son monde soit déstabilisé, qu'il y ait des brèches qui s'ouvrent d'un peu partout. D'abord à son insu, puis après, il s'en rend compte, évidemment.
Mm-hmm.
Mais ça va prendre du temps et ça va changer son regard progressivement comme ça. Et déjà, il est jaloux, oui, parce qu'il se demande qu'est-ce qui fait briller les yeux de ma femme comme ça. C'est certainement pas moi, depuis tout ce temps-là.
Mm.
Et en même temps, il se pose des questions que se posaient tous les hommes à l'époque, mais sans vraiment trop y croire, d'ailleurs, parce qu'il se dit, bon, je dois rêver, quoi. Enfin, je veux dire, je dois me faire des idées. Mais en même temps, il y a une chose qui est certaine, il sent que quelque chose a changé.
Oui.
Et en fait, ça a changé finalement moins pour sa femme, parce qu'elle était déjà comme ça à l'intérieur.
Et oui, parce que c'est lui
mais
qui
il ne le voyait pas, que dans son propre monde à lui, qui est en train de se lézarder.
Est-ce qu'il a honte d'être de ceux de la Terre?
Pas du tout. Alors,
d'accord.
Justement, je voulais surtout pas tomber dans l'archétype de l'intellectuel qui rejette les terriens, comme ça, les gens qui cultivent la terre, parce qu'il se sent supérieur. Pas du tout, au contraire, il respecte énormément. D'ailleurs, pour lui, c'est quelqu'un de très prosaïque, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin des valeurs essentielles. Et donc, la terre, nourrir les gens, autant il estime que les artistes qui viennent chez Firmin Bobby, comme il dit lui-même, c'est des gens foutres, des parasites.
Oui.
C'est des peintres, des barbouilleurs, rien de plus, ils servent à rien. Par contre, il a un énorme respect pour tous les gens qui servent à quelque chose.
Oui, qui travaillent.
Il y a quelqu'un qui sert à quelque chose, c'est bien l'agriculteur qui nourrit tout le monde.
Mm-hmm.
Il vient de cette famille-là, il connaît ça très bien. Il n'a pas voulu fuir la terre. C'est la vie qui a fait, bon, je ne vais justement pas donner la raison, etc., mais et qui a fait qu'il a fait des études, qu'il était doué pour les maths et qu'il s'est retrouvé professeur de maths. Il estime que enseigner, c'est un métier utile aussi, mais il a énormément de respect pour la Terre. En revanche, il imagine que ce sont deux mondes séparés. Il ne découvrira que bien plus tard, mais là, je peux pas le dire non plus, que même dans sa famille, c'était pas séparé du tout.
Tout à fait. Votre plume, là, elle a un atout majeur, parce que finalement, qui est le plus prisonnier des deux?
Ah ben André, sans aucune hésitation, évidemment qu'il est prisonnier du bunker qu'il a lui-même construit. Depuis toutes ces années-là, elle l'a épousé juste après la Première Guerre mondiale. Donc, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on appelle un vieux couple. Donc, elle a appris, depuis tout ce temps-là, à vivre pour elle-même sans qu'ils s'en rendent compte et à trouver toutes les occasions et à s'épanouir quand même. Et je pense que c'était le cas de toutes ces femmes de l'époque. Maintenant, ça nous semble très étrange qu'on nous interdise des choses, etc. Évidemment, on rue dans les brancards. Oui. Je trouve ça très bien. Mais à l'époque, il y avait les murs, il y avait les conventions sociales. Et il n'empêche que il y a des femmes qui ont fait des choses formidables, et même des femmes de tous les jours qui avaient leur vie quand même et leur vie personnelle, oui. Leur vie intérieure, leur vie où elles s'épanouissaient dans l'art, ou en jouant du piano à la maison, ou des choses comme ça, etc. On trouve toujours une porte de sortie.
Oui. La petite Vivi est autiste. Est-ce que ce n'est pas aussi elle qui fend cette croûte, cette carapace que s'est forgée André?
Ah ben totalement, parce qu'en fait, je reprends l'image que j'ai citée tout à l'heure en parlant d'alchimie.
Oui.
Je vous ai dit, il fallait transformer le plomb en or.
Oui.
Mais pour ça, l'alchimiste, il a besoin de la pierre philosophale. Et ma petite Vivi, c'est la pierre philosophale. C'est-à-dire qu'elle est juste par sa présence, puisqu'elle ne parle pas, elle est étrangère oui. aux gens qui l'entourent complètement. Elle est autiste, elle n'est pas Asperger.
Hein. Oui.
Donc elle est autiste profonde et elle est complètement étrangère à tout ce qui arrive. Et par sa seule présence, elle va finir de changer, je dirais, le regard d'André. Pourquoi ? Non pas en faisant appel, justement, dans la population, enfin, avec des gens lambda, les enfants, ça nous touche, ça nous émeut. André, ça ne le touche absolument pas. Je répète, pour lui, l'enfant, c'est le chaos, et c'est pas lui qui aurait envie d'aller câliner Vivi, etc.
Oui.
Il va très bien, parce qu'en tant qu'autiste, il ne supporte pas d'être touché.
Oui.
Mais, en revanche, lui, ce qui va l'interpeller, c'est l'énigme intellectuelle qu'elle représente, c'est-à-dire, qu'est-ce qui la fascine, elle, parce qu'en fait, elle s'enfuit certains jours
oui.
du jardin de ses parents pour aller se mettre en contemplation devant cette fresque qui existe, hein, qui couvre le pignon de la
oui.
maison de Firmin Bobby, qui a été faite par Jean Lursa. C'était un brouillon pour mm-hmm. la maison de la fresque qu'on lui avait demandé pour la maison de la radio de Strasbourg, une fresque de 125 mètres carrés. Et il avait fait sur le pignon, donc on peut le voir, il suffit d'entrer dans le mas, hein, avec tous les quatre éléments justement qui font la céramique qui sont représentés. Et cette petite fille qui ne parle pas, qui est étrangère à tout le monde autour, est fascinée par cette fresque en céramique. Et lui, il se demande, mais qu'est-ce qu'elle voit que je ne vois pas?
Voilà,
et à partir
ça.
De cette interrogation qui naît,
oui.
qui est exclusivement intellectuelle, hein,
oui.
vraiment on est dans l'intellect, eh bien il va mener son enquête et il va se mettre à hauteur de cet enfant. Il va pousser des portes qu'il n'aurait jamais poussées lui-même.
Tout à fait.
Simplement parce qu'il a envie d'avoir le fameux de l'énigme en quelque sorte. Mais
oui.
pour lui, c'est une énigme intellectuelle.
Parce que,
et
voilà.
en fait, ça va avoir des répercussions bien plus importantes
oui.
pour lui et ça va changer sa vie.
Tout à fait. Et je pensais même qu'à un moment, il allait lui proposer des mathématiques. Parce que pour lui, ça devait être ça dans sa tête. Elle voit ça, mais on doit pouvoir le relier aux mathématiques.
Peut-être plus tard, parce que là, elle est toute petite, hein,
oui.
elle a 4, 5 ans.
Oui.
Et donc, à ce moment-là, déjà, ses parents, enfin, personne n'arrive vraiment à établir le lien.
Oui.
Il faut se souvenir que dans ces années-là, donc là, on est au début des années 60, l'autisme, on vient juste de mettre un nom là-dessus.
Oui.
Et c'est l'époque des chercheurs comme Asperger, justement,
oui.
et ainsi de suite, tous ces gens-là qui ont cherché. Comme d'habitude, hein, quand on cherche, on va d'abord dans de mauvaises directions.
Oui.
Et je voulais aussi, fallait pas croire que le propos du livre, c'était de dire « c'était mieux avant ». Non, à cette époque-là, il y avait notamment la théorie de la mère frigo, c'est-à-dire que l'autisme de l'enfant était provoqué par la mère qui, lorsqu'elle attendait l'enfant, c'était ça la théorie, n'avait pas établi le lien alors qu'il était en elle-même, l'enfant, et n'avait pas donné assez d'amour. Donc on culpabilisait les femmes à mort en leur
oui.
disant « c'est votre faute ».
Ça, ça m'a vraiment...
Et c'était le cas à
oui.
l'époque. C'était le cas à l'époque. Heureusement, depuis, on est bien revenu là-dessus et puis on a avancé beaucoup, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais il y a de plus en plus d'autistes. Et je dédie justement mon livre à Julie, que j'ai connue, elle avait 4 ans, qui est autiste. Là, encore une fois, autiste, non pas Asperger du tout, hein, ce qu'on appelle les autistes savants, hein, mais
oui.
que sa maman est une amie, et que j'ai vue évoluer. Aujourd'hui, Julie a 20 ans et elle est chef d'entreprise.
Ah.
C'est extraordinaire. Moi, elle m'épate tous les jours.
Oui.
Toujours rester très formelle. Elle doit se contrôler en permanence. Donc, elle fatigue au bout de quelques heures. Il faut qu'elle s'arrête et qu'elle se mette dans son coin. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui répond à la presse, qui se veut très professionnel, etc., etc. Parce que les autistes ont ce côté-là, hein, très formel. Et elle m'a tellement épatée. Je voulais justement mettre en scène cette petite fille qui était un peu ce qu'était Julie quand elle était gamine.
Oui.
Et qu'elle dormait pas la nuit, qu'il fallait que sa maman, là, les parents d'autistes, ça va leur rappeler malheureusement des choses. Elle dormait que dans la voiture. Par conséquent, toute la nuit, sa mère devait tourner dans les pâtés de maison tout autour pour qu'elle puisse dormir, mais elle-même ne dormait pas, évidemment.
Et, oui.
Et donc, moi, je l'ai connue comme ça, avec une voix très perçante, avec des cris, avec des choses comme ça. Et de la voir aujourd'hui, non seulement parfaitement intégrée, mais sur Instagram, pour faire la promotion de son association entrepreneuriale, pour l'intégration des autistes, justement, aller voir les élus. Mais je suis épatée, mais vraiment, je trouve ça extraordinaire. Et c'est justement par rapport à ça, j'avais envie de rappeler d'où on était parti par rapport à l'autisme.
Oui. André va prendre conscience petit à petit qu'il est passé à côté du bonheur. Grâce à Vivi, il va toucher l'art, il va comprendre l'art, il va le découvrir quelque part, c'est une découverte. Est-ce que le fait de pouvoir côtoyer les grands artistes comme Jean Lursa, Pablo Picasso et j'en passe, Suzanne vit par procuration quelque chose ou pas?
C'est pas vraiment par procuration, parce qu'elle-même n'étant pas une grande artiste,
elle est
heureuse d'être à leur contact, de les voir et de les entendre parler d'art, etc. Comme moi, je pourrais avoir exactement la même réaction par rapport à des grands comme ça. Moi, mon domaine, c'est l'écriture, mais quand j'entends parler de peinture, de céramique, etc., je suis toute
oui.
Je suis comme elle. On se nourrit, toute personne se nourrissent de toutes ces choses extraordinaires qui font que la vie prend une autre dimension, on va dire. Hein. Pour André, ce sera elle le sait depuis longtemps. Parce que elle a fait des études. Faut pas croire, c'était pas quand elle a épousé André. C'est une jeune fille de bonne famille qui avait fait des études, etc. Qui s'intéressait déjà à l'art. Bon, il l'a mis complètement sous l'été noir. Enfin, il l'a cru. Mais elle a continué à s'y intéresser. Et puis, quand vu le voisinage, elle en a profité. Mais lui, ça, par contre, ça va être une révélation extrêmement violente. Tout d'un coup, c'est comme si ses yeux s'ouvraient.
Oui.
Tout d'un coup, le bunker s'écroule et tout d'un coup, toutes les portes, les fenêtres sont ouvertes et le monde est à lui, quoi.
Mm-hmm.
Et c'est quelque chose, moi, personnellement, ça me touchait beaucoup de voir André naître une deuxième fois, en fait.
Oui.
Et en même temps, le message, c'était de dire qu'il n'était jamais trop tard pour bien faire, parce que là, il a presque 70 ans quand ça lui arrive.
Oui.
Et malgré tout, une deuxième vie commence à cet âge-là. C'est pas qu'il a cassé les murs, on les a cassés pour lui, si je puis dire, et ils ont fini par finir de se lézarder tout seul.
Tout
a fini par s'écrouler, et pour le meilleur, si je puis dire, parce que des fois, malheureusement, c'est pas le cas. Et Suzanne Sibylle, puisque c'était son vrai prénom, redevient Sibylle, et elle, qui connaît parfaitement ce monde-là, va pouvoir le guider donc dans ces découvertes-là.
Justement, il fallait que André justement découvre cette vie secrète de Suzanne pour réaliser ce qui lui a imposé, ce qui lui a fait endurer toute leur vie de mariage.
Déjà, il culpabilise, oui, parce qu'il se rend compte qu'il n'avait pas le droit de faire ça, d'une part. Et puis, il se rend compte aussi à côté de quoi il est passé.
Oui.
Et en fait, il redécouvre sa femme.
Oui.
Complètement. Alors qu'il la voyait, je le répète, comme un prolongement de lui-même. Il avait des idées très arrêtées. Il fallait se marier, donc se fiancer, se marier. Il l'a fait. Elle est plutôt agréable. Et puis, en plus de ça, c'est quelqu'un de doux. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de vagues, justement. Elle est rentrée dans le moule. Pour lui, il pensait être heureux. Et là, il vient de découvrir que déjà, lui ne l'était pas vraiment, et elle, surtout pas.
Oui.
Et oui, il a la sensation qu'il lui doit quelque chose. Oui. Et il lui fait une déclaration d'amour, mais évidemment, à la manière d'André Escande.
Tout à fait.
Ne vous attendez pas à qu'il mette un genou à terre. C'est pas comme ça
j'ai
qu'on fait.
J'ai trouvé ça très, très drôle.
Mais je trouvais qu'il ne pouvait s'exprimer que comme ça.
Oui.
Et c'est d'autant plus touchant, parce qu'il y a des gens qui font... Vous savez que c'est la chanson de Dalida, parole, parole, parole.
Oui.
Il y en a qui le disent sans arrêt. Et ça n'a plus de valeur. Mais quand lui dit quelque chose, alors que ça fait autant de décennies qu'il n'a jamais dit ce genre de choses, eh bien, du coup, ça prend une valeur extraordinaire. Et sa femme, elle a deux doigts de tomber dans les pommes. Hein.
Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'André va à la soirée pour faire plaisir à Sibylle, qui est Suzanne, donc? Ou est-ce qu'il a besoin de s'apprivoiser à la foule?
C'est la soirée de Dali, quand il fait le voyage triomphal en 65, en fait, là, il a accepté d'entrer dans le monde.
Oui.
Et comme je dis, il se laisse guider. Parce qu'il sait maintenant que sa femme, elle a des longueurs d'avance sur lui. Et qu'il a beaucoup de retard à rattraper.
Mm-hmm.
Les voisins les ont invités, donc Firmin Bobby. Comme il les avait invités des dizaines de fois, mais qu'ils n'y allaient pas parce qu'ils refusaient, donc maintenant, il y va. C'est toujours pareil, il écoute, il regarde, etc. Il y a un moment où il faut qu'il s'isole. C'est trop encore pour lui. Mais progressivement, il va y arriver, bien
oui.
évidemment. Il suit Suzanne parce que c'est maintenant son guide. Jusque-là, c'était lui qui dominait, c'était lui qui imposait. Là, il a finalement accepté que toutes les portes s'ouvrent, mais il se rend bien compte qu'il a des décennies de retard
et oui.
que par contre, elle sait. Et
oui.
donc, il se laisse. Le rapport de force est inversé.
Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments au cours de l'écriture où André vous a dit carrément « Le costume que tu m'as taillé, ça ne me va pas, j'aimerais être plus gaie, j'aimerais vivre la vie » ou pas ?
Ah non, je pars du principe, mais je le fais cohérent. Après, je le laisse vivre. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe.
Oui.
Que finalement, il va s'ouvrir de toute façon. Il n'était pas question pour moi de le laisser enfermé dans son bunker.
D'accord.
Encore une fois, c'était de l'alchimie. Il fallait qu'il y ait la réaction qui se produise.
Oui.
Il y est allé à son rythme, je dirais. J'ai pas, même pas la sensation d'avoir forcé, au contraire. Il y avait peut-être des fois où je me suis dit, tiens, là, il pourrait se passer telle chose. Et puis après, je me disais, non, trop tôt.
Mm-hmm.
Et ça, c'était André qui parlait, en quelque sorte.
D'accord.
C'est pas possible que la muse soit si rapide et surtout si facile.
Oui.
Parce que c'était quand même, il avait déjà 60 ans, donc vous imaginez un petit peu. Bon, on va dire que c'est pas depuis l'enfance, mais enfin, ça fait pratiquement 50 ans qu'il est comme ça. On n'enlève pas... son costume de vieux grognon père rigide aussi facilement. Dessous, ben, il est fragile, forcément.
Oui. Donc avec ce livre, vous êtes une excellente ambassadrice du pays catalan.
Oui.
Donc je suppose que la couverture, c'est un petit clin d'œil à Vivi, qui est
Bien
peut-être
sûr,
une autre personne.
Bien sûr, avec voilà. un coquelicot. Oui.
Tout à fait. Hélène, merci beaucoup de m'avoir confié cette lecture. La vie, dans son vrai sens... avec les travers comme celui de Christiane, la maman de Ivy, les petits bonheurs, si petits soient-ils, qui font toujours le soleil de la vie. Merci de nous faire découvrir la céramique depuis 1942. Donc, cette famille Bodhi perpétue son savoir-faire de la céramique avec ses propres créations, mais aussi en accompagnant les artistes. Cela, vous tenez à cœur, justement, de mettre tout ça ce pays catalan en avant ?
Ah, totalement, totalement, parce que comme je l'ai dit, à l'époque, les plus grands artistes venaient. Alors maintenant, la céramique est moins à la mode, évidemment.
Mmh.
Le pays catalan est une terre d'artistes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la lumière, parce qu'il y avait les paysages aussi.
Oui.
En 1905, Matisse et Derain sont venus inventer le fauvisme à Collioure. En 1911, c'était Picasso et Braque qui ont inventé le cubisme à Serré. Il y a Dufy qui est venu aussi peindre. Enfin, tous les artistes, ou plus ou moins, pendant des décennies, pendant tout le XXe siècle, sont
oui.
passés par le pays catalan. Pour ça, et puis en plus, c'était moins cher qu'à Paris, où ils crevaient de faim à Montmartre.
Oui.
Ici, il pouvait s'épanouir, créer et, encore une fois, faire exploser les couleurs.
Oui.
Et donc, j'avais à cœur de montrer que San Vicens et la céramique s'inscrivaient dans tout ce mouvement d'artistique et tous les gens qui ont convergé justement dans ce centre d'art qui continue à exister, qui continue à créer des merveilles. Et peut-être que la céramique reviendra plus à la mode et vous redécouvrirez San Vicens. Puis des personnages comme effectivement Jean Lursa qui a fait de la céramique, mais au départ il faisait des tapisseries, hein,
mm-hmm.
des cartons de tapisserie qui sont extraordinaires. Quand on écrit un livre, je terminerai là-dessus parce que c'est le grand débat à la mode, mais on parle de l'intelligence artificielle et de ChatGPT. Un livre, c'est pas juste une histoire, une intrigue avec des péripéties. Un livre, c'est un auteur, une autrice comme moi, qui a envie de partager des choses avec vous, les lecteurs. Et je partage avec vous une partie de ma vie, de mon âme, une partie de moi.
Mm-hmm.
Et ça, vous ne le trouverez pas avec ChatGPT. Effectivement, si vous voulez qu'une histoire, j'allais presque dire en miroir, c'est-à-dire, moi j'ai envie de lire une histoire où il se passe ça, ça, ça et ça, ChatGPT vous fera le livre que vous auriez pu écrire. J'écris, comme je vous l'ai dit, à partir de tout ce que j'ai en moi. Je le partage avec vous et ce qui est formidable, c'est quand je vais dans les salons du livre, etc., les gens, comme vous d'ailleurs, pendant cette émission, vous me parlez de votre livre, du livre tel que vous l'avez ressenti, vous. Et c'est pas le même forcément exactement que celui que j'ai fait. Et c'est très bien. chacun peut se l'approprier, et c'est ça un livre.
Oui.
Ça fait circuler tout ça, et c'est le partage avant tout.
Oui. Hélène, en tout cas, merci beaucoup de me l'avoir confiée, cette lecture, parce que franchement, elle est belle, elle est chaude, elle est pleine de couleurs, elle est du pays catalan tout entier. L'alchimiste de Saint-Vincent, où quand la beauté sauve et illumine, et en effet, elle a sauvé André de sa prison, c'est paru chez Calmant Lévy, collection Territoire, en 2022. On peut le commander chez tous les libraires ou bien aussi auprès des éditions. Merci encore de votre confiance. Je vous laisse le mot de la fin. Qu'allons-nous écouter pour clôturer cet entretien qui est plein de soleil?
D'abord, je voudrais vous remercier, vous, de m'avoir accueillie dans votre émission, Gisèle, et tous les auditeurs, d'avoir passé ce moment ensemble. C'est comme un livre, vous voyez, on était toutes autour du livre, on en a discuté, et c'est ça qui est génial. Donc, merci pour ces très bons moments. Et on termine, encore une fois, la céramique. J'ai parlé d'alchimie,
oui.
C'est un peu de la magie quelque part. Et comme j'adore Queen, ça ne pouvait finir que par « It's a kind of magic » de Queen.
Merci, Hélène. À bientôt. Au revoir.
À bientôt, j'espère. Au revoir.
C'était Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. The doors of time, it's a kind of magic. The way.
C'était Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur.